Nous voilà arrivés à la fin. Alors maintenant, des questions pour Déborah et Hélène sur Hannibal. Et des questions pour Hugo sur Buffy, avec peut-être un lien entre les deux, non ? Déborah ? Hélène ? Joker.
En fait, c'est plutôt par rapport au principe de la racialisation que j'ai beaucoup de mal à comprendre, peut-être venant de l'infocom, où justement on a beaucoup d'études qui disent que cette racialisation n'existe pas. Et c'est vrai que, enfin, c'est pas que ça n'existe pas, mais que c'est utilisé, mais que c'est pas aussi un lien aussi facile, donc, enfin, aussi évident d'avoir justement ce côté reproduction, finalement, d'éléments. Enfin, après, j'ai pas vraiment le lien avec Hannibal, nous c'est vrai que c'est un support, finalement. Hannibal est devenu un support plus à une expression de sensibilité plutôt qu'un outil. J'ai envie de dire, c'est Hélène, si tu es avec moi. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal. Alors, je comprends le concept philosophique, mais de façon appliquée aussi franchement, est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, peut-être ?
Oui, bien sûr. Alors, moi, le concept qui m'intéresse, ce n'est pas un concept causal. Donc, c'est-à-dire que pour moi, l'œuvre d'art ne cause pas ou ne provoque pas un comportement comme, je sais pas, l'injection d'une drogue pourrait induire un certain type de comportement. C'est un concept très large qui consiste à considérer quand un phénomène social, culturel émerge, je sais pas, le terrorisme islamiste ou les massacres scolaires, il y a certainement une pluralité de causes et il ne faut pas négliger alors justement, c'est pas la cause, mais la présence, peut-être à un niveau intentionnel, de l'art. C'est-à-dire, pas en tant que cause, mais en tant que modèle qu'un individu va pouvoir utiliser. Si j'ai travaillé sur ce concept, c'est dans le cadre d'une recherche suite à l'appel à projet du directeur du CNRS autour des attentats. Et mon idée, c'était non pas de dire ces films, ces séries violentes que je trouvais reliées à certains attentats récents sont la cause, mais imaginez un esprit malveillant, donc un esprit fanatique, qui trouve que le monde tel qu'il est ne mérite pas d'exister. Ne pourrait-il pas trouver dans certains films ou certaines séries télévisées ou certains jeux vidéo des idées de scénarios d'attentats possibles ? C'était le principe de mon enquête. Donc, d'accord, et d'ailleurs, ici on retrouve le thème de la violence, quelque chose qui a été très bien étudié, je trouve, par Laurent Julier dans un livre qui s'appelle « Interdit aux moins de 18 ans ». Il montre très bien que on ne peut pas dire, il n'y a pas de causalité de la violence cinématographique sur la violence réelle. En revanche, il met en évidence l'existence de théories très intéressantes comme la théorie des modèles d'inconduite. La théorie des modèles d'inconduite, c'est dire qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, qui est en révolte contre le système, contre la société, il en veut à tout le monde. Il ne sait pas comment exprimer ça. Et à la télé, on dit « Oh, regardez, il y a des jeunes qui brûlent les voitures. Ah, qu'est-ce que c'est mal, parce que les gens, ils n'ont pas de sous pour en racheter. » Eh bien voilà, vous lui avez donné un symptôme. Comment est-ce qu'il va pouvoir exprimer son mal-être grâce à un symptôme qu'on lui a désigné? On lui dit, il ne faut pas tuer des jeunes gens qui vont écouter un concert de hard rock. Lui, il n'aime pas spécialement les gens qui écoutent un concert de hard rock. Donc, ah ben voilà un symptôme. Si je fais ça, on va m'écouter. En tout cas, je vais passer. Donc, c'est ce genre de théorie. Et là, ce n'est pas causal. Ce n'est pas le film ou le média qui crée. Il y a déjà quelque chose. Donc c'est juste comme ça. C'est un peu comme un concept opératoire. On s'en sert, puis on va regarder ce qu'on pourrait identifier.
À ce propos, pour la racialité, ça marche pas là, si. Ça marche ? Oui, ça marche ? Ah, moi, je n'entends pas. Y a l'exemple de Hunger Games, mais en fait, toutes les filles à l'école, elles portent cette tresse, pas parce qu'elles ont vu le film, mais parce qu'elles ont vu la télé-réalité dans la fiction. C'est-à-dire que ça devient une héroïne populaire. Et en plus, je pense qu'on est dans le deuxième ou troisième, et donc c'est une star. C'est-à-dire maintenant, elle fait partie de la haute société puisqu'elle a gagné les Hunger Games. Donc moi, j'utilise tout le temps cet extrait en cours, bizarrement, pour montrer en fait la façon dont la culture populaire influence les hautes sphères les hautes classes sociales. Involontairement. C'est-à-dire que en France, aux États-Unis, partout, dans la société occidentale, ce sont les homosexuels, les Noirs, les Arabes en France, les pauvres, les rappeurs, etc., qui vont exister, parfois produire de l'art, mais pas forcément. Elle, c'est pas de l'art qu'elle produit, hein, c'est... et qui vont influencer les couches supérieures qui sont même pas conscientes que c'est ça qui se passe. Et en fait, là, il y a un moment où le grand-père prend conscience de l'influence de cette femme, puisqu'elle arrive même à faire ça. Mmh. Et donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus large que l'artialisation dont on parle quand on dit... voilà, on va commettre... parce que là, elle ne va pas du tout commettre un crime par rapport... Où elle va pas... Enfin, elle va se mettre à s'habiller d'une certaine façon. C'est vraiment culturel, c'est profond, c'est quelque chose d'inconscient. Alors que les jeunes qui regardent des jeux vidéo et qui se disent, tiens, j'ai un scénario là où je vais... ou même je vais écraser un avion dans une tour, c'est plus conscient. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on recherche beaucoup... Il y a plusieurs films qui avaient mis en scène l'attaque des tours jumelles. Mais en fait, il se trouve que mon père, c'est son métier, il est retraité depuis longtemps, mais il est dans l'armement et les anticiper les actes des terroristes, etc. Et en fait, ces scénaristes, pourquoi ils ont cette idée? C'est parce que c'est quelque chose que développe la DGSE, le FBI, la CIA aux États-Unis, etc. Et en fait... il y a des spécialistes qui disent que les terroristes, ils ont été en fait influencés par les scénarios qu'ont imaginé les gens qui cherchaient à lutter contre eux. Mais en France, le scénario, je vous préviens, le scénario le plus probable d'attaque terroriste, c'est d'écraser un avion sur une centrale nucléaire. Ça fait 60 ans qu'ils ont peur de ça. Donc si un jour ça arrive, les terroristes on pourra dire que les terroristes ont été influencés non pas par des films, etc., mais par les gens qui cherchent à lutter contre.
Je vous remercie. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Et je ne voulais pas réduire l'artialisation au seul exemple que j'ai donné. Seulement, j'expliquais sur un cas de causalité, supposer comment le concept pouvait être utilisé. Et puis, pour répondre à l'appel à projet du CNRS, il fallait avoir, une recherche qui produise des résultats potentiellement utiles. Donc c'est pour ça que j'avais réduit. Mais vous avez complètement raison sur la puissance... la puissance de ce phénomène qui est au-delà du conscient, de ce dont on peut être conscient. Et j'ajouterais, par rapport à ce que vous dites, de la collaboration entre les scénaristes et puis les professionnels, que c'est ce qui se passe pour des séries comme Homeland ou Le Bureau des Légendes.
Il y a des experts sur la série. Il y a des experts qui sont...
Donc il y a une amie et collègue qui est aussi en thèse avec Sandra Logier, qui travaille en ce moment sur Homeland et Bureau des Légendes. Et elle a fait venir à Paris plusieurs fois des scénaristes de Homeland, des gens des services secrets. Et il y a des échanges comme ça. C'est aussi un des aspects de la recherche sur les séries télévisées aujourd'hui.
Moi, j'aurais une question pour Hélène Breda. J'ai conscience que les recherches sur la fanbase Hannibal sont assez récentes, apparemment. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas inclus le site d'Archive of Our Own pour les fanfictions et les fanarts en général?
Alors, pour une raison très très prosaïque, qui est le manque de temps. Et moi, c'est assez récent, mon travail sur les fan studies, donc c'est vrai que les plateformes, je ne les maîtrise pas forcément toutes. Et pour ne rien vous cacher, c'est bête, hein, mais j'avais une autre journée d'études la semaine dernière, j'ai réalisé ce travail-là dans une urgence absolue. Mais par contre, là, c'est vraiment un terreau que je vais maintenant développer et sur lequel j'espère pouvoir faire d'autres communications, des publications, et donc élargir ça. Voilà, je suis désolée, c'est totalement insatisfaisant comme réponse, mais c'est la vérité.
Oui, alors après, pour aller dans le sens d'Archive of Our Own, qui est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le nouveau site, quand fanfiction.net a commencé à interdire des fics, notamment interdits moins de 18, c'est Archive of Our Own qui est rené et qui est vraiment tenu par des fans, pour des fans, qui est que sur le bénévolat, etc. Et c'est vraiment le site qui est à la mode, et effectivement, on en parlait pendant 2 secondes avec Hélène. En ce moment, sur Archive of Our Own, par rapport à fanfiction.net, on a plus de 20 000 fics sur Hannibal et, dont les 19 000 sont sur le shipping. Donc effectivement, etc. Enfin, c'est un site qui est extrêmement riche après.
Est-ce qu'on a encore d'autres questions ? Moi, j'ai juste une question pour Hélène et une question de néophyte. Alors, je prends mon papier. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce que vous entendez par processus de la représentation et de l'auto-représentation ? Vous l'avez mentionné.
En fait,
Alors, je vais juste reprendre mes notes. En fait, c'est une théorie qui a été... Ça a été Teresa de Laurectis, donc, qui est une chercheuse qui a... Le livre a été publié en 2007, mais je crois que l'article date du début des années 90, qui explique en quoi le genre n'est pas uniquement ce qu'on voit à la télé, mais est aussi dans tous les débats, enfin dans l'auto-représentation, c'est-à-dire comment moi je me définis en tant que personne genrée. Et elle utilise, en fait, excusez-moi, je vais reprendre juste la citation, je suis désolée, parce que je ne la connais pas par cœur. Alors... En fait, la citation, c'est « La construction du genre est à fois le produit et le processus de représentation et d'auto-représentation. » C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement ce qu'on va voir, ça va être aussi ce qu'on va faire avant d'arriver à ce qu'on voit. En gros, j'essaie d'être extrêmement rapide, s'il y en a d'autres qui veulent en discuter, je veux bien. Donc, c'est ce processus et ce produit de la représentation, donc par exemple des séries, mais aussi de l'auto-représentation, c'est ce que moi je vois et ce que je transmets par mes actions. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend là l'exemple de Scott Thompson, donc produit, processus, donc ce qu'on va voir du personnage et en même temps comment ce personnage va être créé, auto-représentation et représentation, ce que moi, en tant que spectateur, je vais voir et aussi comment je vais la réinterpréter, comment je vais me représenter. Après, c'est sincèrement, ça se lit. Comme c'est un ouvrage qui se lit très, très facilement, où elle reprend, elle s'applique notamment sur Cronenberg et Madame Butterfly, où elle montre comment tout ce film de Cronenberg est une représentation avant tout, avec une forte, forte homosexualité, et comment Cronenberg joue sur la musique, joue sur les représentations et les cadrages pour transmettre ce message, en gros. C'est un peu... Est-ce que c'était... Si c'est pas du tout clair, je m'en excuse.
Ça me permet de mieux comprendre le cosplay et toutes ces réappropriations après. Je crois qu'il nous reste à essayer de conclure rapidement. Donc, d'abord, je voudrais dire un grand merci, vraiment, à tous les intervenants. Je pense que c'est assez rare d'avoir des sujets aussi pointus, en même temps théoriques et très illustrés.